Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie pour une émission un peu particulière aujourd'hui, puisque nous recevons Christophe Dickès. Christophe Dickès qui est journaliste sur cette antenne. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabrice.
Christophe Dickès qui, outre le fait qu'il est co-directeur de Presse Index, qu'il est journaliste sur cette antenne, est aussi, il faut le dire, un historien qui a travaillé plusieurs années durant à l'Université Paris 4 où il a fait une thèse de doctorat et qui publie depuis quelques jours Jacques Bainville, Les lois de la politique étrangère, chez Bernard Giovanangeli en éditeur. Et c'est autour de ce livre que nous voudrions discuter aujourd'hui et plus particulièrement autour de la figure de Jacques Bainville. Jacques Bainville, un des patrons de l'Action française, un des grands penseurs des relations internationales de l'entre-deux-guerres. Jacques Bainville, en même temps, étant de l'Action française, une pensée peut-être un peu sulfureuse et aussi peut-être la bonne question à poser pour commencer cette émission, Christophe Dickès, pourquoi Bainville ?
Alors, l'origine en fait du livre, c'est une origine, j'allais dire, familiale, puisque c'est mon père qui, il y a bien une douzaine d'années, m'a parlé de Jacques Bainville et de son livre prophétique « Les conséquences politiques de la paix », dans lequel nous aurons l'occasion d'y revenir. Il prédit en 1918-1919 ce qu'il va se passer en Europe en 36, 37, 38 et surtout 39. Donc, ça a été une petite graine, et comme toutes les petites graines, soit vous l'arrosez, soit vous la laissez mourir. Là, elle a été arrosée par mon parcours universitaire. D'abord en deuxième année de faculté, puisque nous avions comme UV à la Sorbonne l'étude de la politique étrangère de la France entre les deux guerres.
Et qui faisait ce cours ?
C'était Georges-Henri Soutou. Et donc, dans les livres de référence, il y avait Bainville, donc la petite graine a commencé à éclore. Et très vite, en fait, si vous voulez, bon, j'ai lu le livre, Les conséquences politiques de la paix. Je me suis passionné pour le sujet. Donc, la politique étrangère, mon livre n'est pas une biographie de Jacques Bainville.
Oui, c'est important à dire, ça.
Mais bien une analyse des relations internationales, disons, dans une période qui va de 1848-1850 à 1936, puisque Bainville meurt en 1936. Donc, par passion, par intérêt, j'ai commencé à réunir des documents sur Bainville, l'œuvre de Bainville, mais aussi les livres sur Jacques Bainville. En maîtrise, j'ai travaillé donc sur Bainville entre les deux guerres, et dans le cadre d'une thèse de doctorat, j'ai travaillé sur Bainville, chroniqueur des relations internationales, donc sous la direction de Georges-Henri Soutou. Voilà, donc cet ouvrage, ma thèse date de 2004, et cet ouvrage est un condensé de ma thèse, bien évidemment, j'ai dû le rendre accessible au grand public, d'où le passage de plus de 500 pages à 250 pages environ de texte.
D'accord. Moi, la question quand même que je me pose, c'est, bon, c'est pas tout à fait une biographie, vous l'avez dit, c'est une biographie orientée vers les relations internationales et vers l'analyse des crises, notamment de la Première Guerre mondiale, de l'après-guerre, de l'entre-deux-guerres et de cette guerre qui vient, mais qu'il ne verra pas, puisqu'il meurt en 1936. Je voulais vous demander juste de retracer en quelques mots l'itinéraire personnel de Bainville. Il naît quand ? Il y a une autre caractéristique dont on discutera, le fait qu'il est autodidacte. Donc, un petit peu cette dimension, j'allais dire, de la personne. Peut-être pas de l'intimité, puisque vous avez quand même regardé son journal de guerre, son journal privé. Mais essayez de nous donner un petit peu cette trajectoire d'un homme, pas forcément d'un penseur.
Alors, Bainville est né en 1879, donc c'est un homme avant tout du 19e siècle. Il est très lié au 19e siècle. Il naît 2 ans donc après cette république naissante, cette troisième république. Il n'en verra pas la fin, c'est important. Et il naît dans un milieu républicain. C'est la naissance donc de la troisième république. Et vous savez, c'est cette république qui est parfaitement incarnée dans l'amphithéâtre Louis Liard à la Sorbonne, qui est cette république qui accepte tous les héritages. Et donc, vous avez dans l'amphi Louis Liard un portrait de Richelieu. Vous avez des symboles républicains, des symboles de la monarchie. Et donc, il s'agit de s'unir. Et il s'agit de s'unir en une période de crise qui est le souvenir de la guerre de 1870. Mais paradoxalement et contrairement à un courant de l'époque, Bainville pense dans sa jeunesse à une réconciliation franco-allemande. Donc il naît républicain par son père qui était lié au radical Camille Pelletan. Et il naît républicain et puis en fait il croit en la réconciliation franco-allemande. Il a un don pour les langues sans aucun doute et il part en Allemagne. Il part en Allemagne où il découvre l'Allemagne wilhelmienne.
Oui, on y reviendra parce que c'est une partie tout à fait fondamentale de son œuvre.
Exactement.
Et une des questions qui est encore aujourd'hui pendante de son rapport complexe avec ce pays.
Exactement. Il se convertit, pour faire court, à la monarchie, à la fois parce qu'en France, on se divise sur l'affaire Dreyfus et il voit l'unité allemande qui le fascine.
Oui, alors vous dites dans le livre, c'est assez amusant, vous dites qu'il part en voyage en Allemagne. Et il en revient monarchiste.
C'est-à-dire qu'il y a cette question dreyfusienne, mais il y a également cette question de... Enfin, une évolution politique. C'est-à-dire que l'évolution politique, elle est marquée par la lecture, au fond, comme nous lisons tous dans notre jeunesse, certains auteurs politiques. Donc lui, il est marqué par plusieurs auteurs politiques, dont Sainte-Beuve. On dit que l'influence d'Auguste Comte a été très importante sur les fondateurs de l'Action française. Je pense qu'elle est... Et elle est importante, certes, le positivisme est important dans la pensée de l'Action française, mais l'œuvre de Sainte-Beuve est ce que Sainte-Beuve appelait l'empirisme éclairé, que Maurras va transformer en empirisme organisateur, est très important. C'est-à-dire qu'il s'agit d'observer les faits du passé pour mieux comprendre le présent et prévoir l'avenir. Donc l'empirisme de Sainte-Beuve va à l'encontre, par exemple, du romantisme que Bainville rejette, que Maurras rejette. Mais Bainville, pour l'instant, il ne le voit pas. Il est donc sous l'influence de Sainte-Beuve, il est sous l'influence de Barrès.
Mais alors justement, parce que c'est une question importante, c'est le caractère autodidacte de Bainville. Alors, en un mot, sa formation, c'est quoi ? On voit bien les lectures, parce que petit à petit, dans le travail que vous faites, vous avez fait sur Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère, dans votre livre, on voit bien comment progressivement il arrive à des œuvres et puis lui-même commence à en créer une. Mais on se demande quelle est la formation initiale ? C'est-à-dire une petite école ?
Il passe par Henri IV. Son père veut le voir médecin. Lui préfère se tourner vers le droit. Il fait 3 ans de droit, simplement, mais il ne terminera pas son année de droit puisqu'il a le virus du journalisme.
Donc c'est un autodidacte, faut quand même le dire, de luxe.
C'est un autodidacte de luxe. C'est un autodidacte de luxe. Donc il se forme par lui-même. Il est en Allemagne. Il découvre Louis II de Bavière. Il veut écrire sur Louis II plusieurs idées. Puis surtout, il veut écrire sur la psychologie du personnage. Et ça, c'est très important, Fabrice. Vous êtes vous-même historien et vous savez que l'analyse psychologique des personnages est une chose récente dans l'historiographie. Et un historien américain, William Keillor, qui a travaillé sur Jacques Bainville, sur l'historien Jacques Bainville, dit que c'est un précurseur, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, un précurseur en quelque sorte de l'école des annales, puisqu'il offre tout un pan d'études des personnages. Et vous avez travaillé sur la psychologie dans le nazisme et le comportement des mondains dans le nazisme. Et bien là, en fait, Bainville est le précurseur de cette étude. Et donc, son étude de Louis II de Bavière est une étude qui se porte sur la psychologie du personnage. Donc, il pense apporter sa pierre. Il pense apporter sa pierre et il se tourne vers Barrès, en fait.
Mais restons un peu sur Louis II, avant de passer à Barrès. Parce que, bon, puisque vous avez lancé ce livre et ce personnage comme premier travail, au fond, comme pour une espèce de propédeutique intellectuelle pour Bainville, ça permet de réfléchir à diverses questions. D'abord, la première question, celle de la méthode. C'est vrai que Bainville insiste beaucoup sur la méthode.
Oui.
J'aimerais peut-être que vous en disiez un mot éventuellement à travers le cas de Louis II. Et puis la deuxième idée qui perce à travers ce travail, c'est cette question du régionalisme. Au fond, c'est la Bavière de Louis II face à l'unité allemande. Et au fond, on sent qu'il y a chez Bainville la volonté de discuter ce que serait la France à la lumière de ses régions. Donc voilà, deux questions. On va commencer peut-être par celle de la méthode et puis ensuite discuter de ce rapport entre régional et national chez Bainville, qui est une question que vous effleurez, mais qui effectivement n'était pas celle que vous aviez directement en tête et qui, je crois, serait intéressante pour nos auditeurs.
Alors, la méthode, eh bien, ma foi, on en revient à Sainte-Beuve. C'est-à-dire que Sainte-Beuve, dans ses fameux lundis, Michel Crépu l'a admirablement bien décrit dans son essai sur Sainte-Beuve, paru chez Perrin. Il offre des portraits psychologiques. Et Bainville veut comprendre l'histoire par la psychologie des personnages. L'histoire chronologique l'ennuyait profondément, il le disait, il l'a répété. Ce sont ses premiers mots de son Histoire de France paru en 1924, où il dit « Dans ma jeunesse, l'histoire ne m'intéressait pas parce que c'était une suite sans fin de guerre et de paix. Et je n'y voyais pas, je ne vous comprenais pas le lien entre tous ces événements. » Et donc lui, si vous voulez... Il veut créer, si vous me permettez cette image, l'histoire est un peu comme une rivière, lui il veut créer le courant, c'est-à-dire il veut découvrir les liens de cause à effet entre les événements pour mieux les cerner. Mais surtout, il pratique un exercice qui est très intéressant, qui est peu pratiqué, il est pratiqué dans l'historiographie anglo-saxonne, dans une collection qui s'appelle « What if ?»« Que se serait-il passé si ?» Voilà. Donc le but n'est pas de refaire de l'histoire, mais d'essayer de comprendre à un moment T, d'abord de ne pas croire en la fatalité, et deuxièmement, au-delà de l'événement qui a pu se passer, voir quelles sont les différentes possibilités que l'histoire aurait pu prendre. Voilà.
Mais c'est important à dire parce que vous insistez beaucoup dans le livre sur le fait que Bainville n'a pas une sorte de téléologie. C'est-à-dire qu'il croit dans la politique, vous insistez beaucoup sur cette idée-là, il croit dans l'action. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, on écrit l'histoire au fur et à mesure, ce qui nous amènera à un moment donné, mais je ne veux pas passer là, je voudrais rester vraiment sur l'histoire parce que est-ce que vous pensez qu'il y a un lien au fond entre son insistance sur l'idée de méthode comme journaliste, comme historien, avec ce moment de la fin du XIXe siècle où se constituent les disciplines. Est-ce que vous pensez qu'il est sensible à ce mouvement ou qu'il essaye de faire de l'Action française? Il y avait quand même l'Institut d'Action française. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une sorte de projet, on va dire, sinon académique, même s'il finit à l'Académie française, du moins peut-être universitaire?
Pas encore, parce qu'à la fin du XIXe siècle, je pense que les courants historiographiques, ils ne s'y intéressent pas, en tous les cas, sous sa plume. Il y a rarement, il refuse d'ailleurs l'académisme. Il refuse les écoles historiques. Son Histoire de France va être descendue littéralement par la... D'ailleurs, de mon point de vue, ce n'est pas son meilleur ouvrage, alors que c'est le plus connu.
Le plus vendu, hein, vous donnez les chiffres.
Le plus vendu, avec
plus de
son 200, Napoléon.
5, ah, oui. 240 000 exemplaires,
chez
je crois.
Fayard, oui, chez Fayard. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Gallimard a publié son Napoléon. Il y a également l'Histoire de France. Il a plusieurs maisons d'édition rééditent son œuvre. Donc, il n'est pas intéressé. Alors, l'Institut d'Action française, c'est un peu spécifique. C'est-à-dire que lui, il était à la tête de la chaire Frédéric Amoretti. Mmh. Frédéric Amoretti était, si vous voulez, à l'Action française. L'Action française n'existait pas encore, mais était dans le mouvement gravitant autour de Maurras, le personnage qui s'occupait des questions de politique étrangère. Donc, il est mort très jeune. Il est mort en 1901 ou 1902.
Une quarantaine d'années.
Et on dit que Bainville a pris en quelque sorte sa succession sur les questions de politique étrangère. Une chaire, Frédéric Amoretti, a été créée. Mais Bainville, si vous voulez, n'est pas très présent, visiblement. On a l'impression qu'il est présent sur le plan administratif, c'est-à-dire qu'il est à la tête de cette chaire. Mmh. Il fait très peu de conférences en public, Bainville. Ce n'est pas un homme
orateur.
Ce n'est pas un orateur.
Pourtant, vous le décrivez comme quelqu'un d'assez sociable.
Oui, très sociable.
Qui arrive à pénétrer le milieu parisien, ce qui va être très utile d'ailleurs pour corriger une certaine image de l'Action française, notamment au moment de la Première Guerre mondiale.
Voilà.
Donc, ce n'est pas un orateur, c'est un homme de l'écrit.
Ce n'est pas un orateur, c'est un homme de l'écrit. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il soit très lié, si vous voulez. On ne peut pas le replacer dans ce courant de la révolution historiographique qu'on va voir à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il est très clairement en opposition avec l'école positiviste, même si vous voulez, son Louis II de Bavière et son Napoléon, eh bien, sont des travaux d'historiens. Alors, bon, il y a un monde entre le Napoléon et Louis II. Hein. Louis II, il l'écrit à 19-20 ans. Le Napoléon, il a dépassé la cinquantaine. Donc, en fait, son Napoléon, c'est un travail d'érudit. C'est un travail d'érudit où il va dans les sources, où il travaille sur les sources. Mais bon, Napoléon, c'est un personnage où il y a des milliers et des milliers et des milliers de sources.
C'est intéressant, ça, ce que vous dites, parce que, justement, vous avez beaucoup travaillé sur tous ces articles, toutes ces publications, vous avez regardé ses correspondances, vous avez regardé ses journaux. Donc, on aimerait savoir un peu plus comment il travaille, concrètement. C'est un homme d'enquête?
Alors, c'est un homme d'enquête, oui et non. C'est-à-dire que, oui, c'est un homme d'enquête, sans nul doute, pour ses travaux d'historien, mais ils sont... Par rapport à l'œuvre d'une vie, ils sont peu importants, alors que finalement, c'est l'historien qui reste pour beaucoup de personnes. Jacques Bainville se lève le matin. La première chose qu'il fait, c'est de lire la presse italienne, la presse espagnole, la presse anglaise, la presse allemande.
Le polyglotte.
Voilà, le polyglotte. Et si vous voulez, nous, Français, nous avons une fâcheuse tendance de voir notre nombril et donc d'avoir un point de vue franco-français. Mais le premier travail, je pense, d'un chroniqueur de politique étrangère, c'est de voir ce qui se passe à côté. Voilà, finalement, Courrier International...
Qui n'existait pas,
a trouvé le bon filon. Mais c'est ça, c'est d'abord voir le point de vue des autres, la presse suisse, etc. La vie des neutres est très important. Et c'est ce qui lui permet, si vous voulez, au-delà de faire des analogies dans l'histoire. Donc, à côté de cette lecture de la presse, eh bien, il recherchait dans l'histoire, par ses connaissances de l'histoire. Son fils, Hervé Bainville, me disait que son père ne lisait jamais de romans, il ne lisait que des livres d'histoire.
Ouais,
et donc, j'ai eu la chance, bien évidemment, de voir la bibliothèque de Jacques Bainville, puisque son fils a récupéré sa bibliothèque. Il gardait, évidemment, comme c'était un journaliste, il recevait des dizaines d'ouvrages tous les jours. D'autant plus que la production littéraire était très importante, plus importante à l'époque qu'aujourd'hui. Il lit beaucoup et il consacre toute sa matinée à cette lecture. Ensuite, il part au journal La Liberté, il écrit son article. Et l'après-midi, puisqu'il écrivait... pas seulement dans l'Action française.
Oui, ça, il
écrivait
dire.
Dans de nombreux ouvrages, je les cite, La Liberté, Le Capital, Économie, Le Petit Parisien, La Nation belge, il a été directeur de la Revue Universelle, qui était un bimensuel, il a écrit des chroniques dans l'hebdomadaire Candide, le journal d'Arthène Fayard. Donc, tout ça, en fait, prend du temps. C'était un travailleur acharné, il travaillait énormément, et le soir, si vous voulez, il réservait ses soirées soit pour l'écriture, soit pour les sorties. Je vous l'ai dit, c'est le trait d'union entre l'Action française et le monde parisien.
La société parisienne, oui.
Et il est très... c'était un ami des Rothschild, il était lié à tout le monde politique, si vous voulez. Quand vous êtes journaliste, vous êtes obligé d'avoir des sources.
Oui, ça c'est un des aspects que vous développez.
Voilà. Et ça, vous ne pouvez avoir ces sources qu'à partir du moment où vous avez des sociabilités, même si ces sociabilités sont en dehors de votre famille de pensée.
Oui, mais alors là, justement, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux étapes, moi je dirais. Parce qu'en vous lisant, ça m'a frappé. Il y a toute une période pendant laquelle on voit un petit milieu nationaliste. C'est-à-dire que, grosso modo, il fréquente les gens de l'Action française, les Vaugeois, les Daudets. Voilà. On sent un petit milieu qui gravite avec sa presse, ses journaux spécifiques. C'est Maurras qui le recommande pour aller, je crois, travailler un moment à la Gazette de France, puis dans un autre journal. Voilà. Avec rôle de mentor à la fois professionnel et intellectuel. Puis il y a un moment où, effectivement, j'ai le sentiment que c'est vraiment 1916 le basculement. C'est-à-dire le moment où il accepte de faire une mission pour Briand. On a l'impression que c'est là que véritablement il change et qu'il devient une figure parisienne parce que, au fond, et ça nous fait toucher déjà peut-être les dossiers thématiques que je voulais aborder dans un deuxième temps. Il devient, et l'Action française à la faveur de l'Union sacrée devient un mouvement, j'allais dire, presque légitime en République, alors qu'avant-guerre il ne l'est pas.
Alors, en fait, je vais répondre à vos deux temps par trois temps. Trois temps pendant la Première Guerre mondiale. À la veille de la Première Guerre mondiale, dans les derniers mois, il comprend très vite son atout, en quelque sorte. Le chroniqueur, c'est mon professeur, enfin le professeur qui a jugé mon travail, Jean-Claude Alain, dans le cadre donc de ma thèse de doctorat, m'expliquait et me disait, bon, Bainville, avant la guerre, dans les années 1911, 1912, 1913, petit. Mais le Bainville de 1913, fin 13, 1914, est un Bainville qui commence à s'émanciper. Il commence à s'émanciper, alors tout en restant dans la méthode d'analyse politique maurrassien, il commence à s'émanciper notamment sur des questions comme l'alliance franco-anglaise. Elle est très importante, Bainville la défend, quand Maurras, lui, l'a critiquée à cause de Fashoda. Mais le Bainville de 1913-1914 commence à être lu dans les milieux parisiens. Il replace le conflit dans les grands conflits du XVIIIe siècle, voilà, entre les différents blocs.
Toujours l'histoire.
Voilà, toujours
Vergennes,
l'histoire.
Richelieu.
Vergennes, Richelieu, Choiseul, etc. Et ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'il fait remarquer. Et peu à peu, il émerge. Mais il va être appelé. Je pense que si ça avait été une personnalité vraiment avec pignon sur rue, ayant pignon sur rue, eh bien, il n'aurait pas été appelé. Là, il est appelé et en gros, il balaye les Invalides, le couloir des Invalides. Il s'occupe ensuite, il a une première mutation qui est oui, la rédaction de
grâce
lettres.
Grâce à Maurras, il faut quand même dire. Voilà. C'est une intervention de Maurras qui le fait changer d'affectation.
Pas dans le premier temps. Il a une seconde affectation après les Invalides, où il travaillait dans les services infirmiers. Eh bien, il a une deuxième affectation qui est la rédaction de lettres aux familles qui demandent des nouvelles de leurs enfants. Alors donc ça c'est très important si vous voulez parce que je vous disais tout à l'heure dans ma maîtrise que j'avais travaillé d'abord sur l'entre-deux-guerres, mais finalement j'ai pris le problème à l'envers et c'est pour ça que j'ai voulu travailler après dans le cadre de mon doctorat au-delà avant. Je n'ai pas commencé pendant ma maîtrise par le commencement. J'aurais dû commencer par le commencement si c'était à refaire, j'aurais travaillé par le Bainville de la Première Guerre mondiale. Parce qu'on ne peut pas comprendre le Bainville de l'entre-deux-guerres sans avoir saisi que Bainville répond à ses familles, voit, comme toutes les familles de France, des gens de son entourage mourir au champ d'honneur. Et il est très marqué par ça. Il est très marqué. Et je pense avoir montré dans mon livre qu'il éprouve une amertume énorme à ne pas être sur le front. Un sentiment de honte, non pas de lâcheté, mais un sentiment de honte, parce qu'il a un problème médical, il ne peut pas aller sur le front. Maurras intervient auprès de Poincaré.
Il a été déclaré inapte.
Il a été déclaré inapte. Maurras intervient auprès de Poincaré, et Poincaré le sort, en fait, de cette tâche pour qu'il soit plus utile en tant que journaliste.
Sa plume sera plus utile que son coup de balai.
Et chose extraordinaire, donc deuxième tournant, je vous disais en trois temps, donc le premier temps, c'est il n'a pas encore cette reconnaissance. Briand lui donne cette reconnaissance. Briand, ennemi de l'Action française. Briand qui a été giflé par un camelot du roi quelques années avant. Et Briand l'envoie en Russie parce que Briand n'est pas satisfait des rapports de Maurice Paléologue, ambassadeur. Et Briand, donc, lui fait toute confiance. Alors, il y va à titre officiel, mais officieux. C'est-à-dire qu'il a des lettres qui lui permettent d'intégrer les différents milieux, de rencontrer des ministres, de rencontrer des députés. Il rencontre, en fait, le tout Saint-Pétersbourg. Il voyage aussi. Il note énormément de choses. Il a un carnet. Alors,
il y a même des phrases d'humour que vous citez. Parce que il explique qu'il serait beaucoup plus amusant pour les lecteurs qui, un jour, liront ça, qu'il parle de Rasputin, plutôt que de parler, effectivement, des rapports de politique, des rapports de pouvoir au sein de la Russie.
Exactement, c'est-à-dire que lui, on lui a proposé de rencontrer Rasputin, il n'a pas voulu justement pour ne pas rentrer dans cette charlatanerie. Donc, il revient de ce voyage, j'en discutais un jour avec Alain Besançon, donc membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il me disait « mais Bainville s'est trompé sur la Russie ». Oui, son rapport montre qu'il s'est trompé, il l'a vu, mais il était envoyé dans le cadre d'un ministère, mais d'un bureau, le bureau de Berthelot sur la propagande. Voilà. Et si vous voulez, il a voulu tout simplement aller dans le sens de l'unité et non pas de la division. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on reste un peu sur sa fin parce que on sent que son rapport, en fait, nous en avons six feuillets qui sont au Quai d'Orsay que j'ai retrouvés, qui ont été publiés dans la revue d'histoire diplomatique. Et en fait, ces feuillets, oui, on reste sur sa fin. Alors il y a sûrement d'autres documents, mais ces documents, il a dû les détruire parce que le bateau a été arraisonné par les Allemands au retour. Voilà. Alors, il y a un carnet aussi que j'ai pu lire, qui est un petit carnet privé dans lequel il notait beaucoup de choses, et notamment ses différentes rencontres. Mais sur le plan politique, si vous voulez, ces articles qu'il écrit, notamment dans la Revue des Deux Mondes en 1916-1917, montrent qu'il comprenait parfaitement la chose. Et il y a cette anecdote, je ne pense pas la raconter dans mon livre, en revanche, je la raconte dans ma thèse, où il rentre dans une échoppe pour acheter quelques objets et il entend une conversation en russe qui se change en allemand. Et donc, en fait, les comploteurs pensaient que la personne qui rentrait était russe, ne parlait pas allemand. Et donc, lui, il comprenait ce qui se passait et c'était tout simplement des membres du parti bolchevique. Et Bainville est sorti et il a dit à son épouse, il faut tout de suite rentrer.
Non, c'est un épisode tout à fait fascinant.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Académie.
Attaquons peut-être maintenant les deux ou trois gros dossiers qui font discuter Bainville et qui font discuter Bainville peut-être aujourd'hui plus avec une espèce de coin qu'on essaie d'introduire entre Bainville et Maurras. Puisqu'au fond, si on veut réfléchir en termes de l'idéologie, en termes d'idéologie de l'entre-deux-guerres, c'est quand même cette question qui reste. Comment se fait-il que l'Action française ultranationale, en 40, tout d'un coup, va rentrer dans une autre logique? On a le sentiment, on se demande toujours qu'aurait fait Bainville s'il avait vécu après 36. Vous écrivez. Alors, vous écrivez, c'est page 179, une phrase, puis je voudrais qu'on commence à discuter à partir de cette citation, du rapport entre Bainville et Maurras. Vous écrivez « Ce serait donc une erreur de désolidariser Maurras de Bainville. D'oublier Maurras en écrivant sur Bainville. L'attachement entre les deux hommes ne fait aucun doute, tant au niveau de l'amitié qu'au niveau des idées. Bainville, assez logiquement et au regard des événements internationaux et de sa spécialité que furent les chroniques de politique étrangère, prendra une importance croissante dans l'entre-deux-guerres, peut-être même au-delà de l'influence maurrassienne. Mais Maurras n'en reste pas moins le maître et en quelque sorte le père spirituel. Il n'est pas étonnant de voir Bainville se placer en disciple d'un homme dont la vie était hors du commun. » Je suis un peu chagrin sur le hors du commun, je dois l'avouer, parce que je trouve que ça a un petit côté complaisant pour Maurras. Vous me direz, on n'est pas ici pour faire de la morale, on est ici pour faire de l'histoire. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus du rapport entre les deux hommes? Est-ce qu'il y a un coin idéologique? Est-ce qu'il y a une différence idéologique entre Maurras et Bainville? Sur des questions clés quand même, hein, la question du rapport à la tradition, est-ce qu'ils s'écartent? La question du rapport à la foi, il va y avoir la condamnation de l'Action française. Vous avez un long passage là-dessus pour montrer que c'est Bainville qui joue au fond le pacificateur par rapport à Maurras qui voudrait aller plus loin dans la rupture. Et puis quand même, sur la question clé, qui est la question des quatre États, que vous n'abordez pas beaucoup, c'est-à-dire est-ce qu'il a la même radicalité que Maurras sur la question des protestants, sur la question des francs-maçons et bien sûr sur la question des juifs?
Alors, si vous voulez, il y a eu un travail, une biographie de Bainville, écrite par Dominique de Scherff, qui est consul, qui a été publiée en 2000 chez Christian de Martyr. Et dans cette biographie, en fait, Dominique de Scherff tente de sortir Bainville du maurrassisme. Et je m'inscris en faux par rapport... Alors, bien évidemment, le travail de Dominique de Scherff est très fouillé. C'est une biographie de référence, sans nul doute. Mais sur cette question du maurrassisme, je pense à la lecture, si vous voulez, de l'œuvre de Jacques Bainville, que Bainville reste maurrassien. Donc, en quoi est-il maurrassien? Il est maurrassien par la méthode. Je dis, à la fin, dans ma conclusion, que Bainville est plus maurrassien que Charles Maurras lui-même. Pourquoi? Parce que Bainville connaît son histoire. Et que dit Maurras dans la lignée de Sainte-Beuve? Il dit que pour faire de la politique, il faut connaître son histoire, il faut essayer de comprendre les causes et les effets, il faut voir les antécédents pour mieux comprendre le présent et prévoir l'avenir. Et Maurras est considéré comme un théoricien, comme la personne qui énonce le dogme, en tous les cas, de l'Action française. Bainville, lui, est dans l'actualité. Et cette actualité, il l'analyse au regard de l'histoire. Et en cela, il est maurrassien. Il est maurrassien. Bainville, lors de son discours, le jour de son élection à l'Académie française, disait « Je vous dois tout, sauf la vie ». Alors non, il ne disait pas, il l'a répété à son discours à l'Académie française, mais il l'écrivait dans un petit opuscule qu'il avait dédié à Charles Maurras, un ensemble de trois contes qui s'appelle « Filiation ». Filiation. Ouais. Dans ce petit travail, il dit « Je vous dois tout, sauf la vie », à peu près tout, sauf la vie. Donc, c'est dire, si vous voulez. Et tout à l'heure, je vous parlais de trois temps pendant la guerre, je ne vous ai pas donné le troisième temps. Le troisième temps, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est Fayard qui lui demande d'écrire une histoire de France. C'est, en fait, Bainville, après la Première Guerre, n'a plus besoin de Maurras, n'a plus besoin de l'Action française. C'est l'époque où le journal Le Temps, lui propose la chronique de politique étrangère. Voilà. Donc ce n'est pas rien. Voilà. Et Bainville, comme je l'explique, pour lui, la première des qualités humaines est l'amitié. Et il ne voulait pas décevoir ses amis et il voulait rester fidèle à cette amitié. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Voilà. Première filiation.
Est-ce qu'il aurait pu
la filiation dans la méthode.
Restons là-dessus. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Parce que quand même, moi je suis frappé de la passion, par exemple, que les Camelots du Roi ont gardée pour lui. À son enterrement, il y a la fameuse agression de Blum.
Il y a la fameuse agression de Blum. Mais je pense que c'est, si vous voulez, l'agression de Blum...
On peut le rappeler, hein, c'est le jour des funérailles, Blum, par accident, croise le cortège et il va être reconnu et attaqué par des camelots du roi, qui le blesse grièvement. Il est sauvé par quelques ouvriers.
Exactement. Voilà. En fait, on dit qu'il est sauvé par des ouvriers. Il semble qu'il ait été sauvé à la fois par des ouvriers et par des royalistes de raison qui étaient plus intelligents que la section de ce filiole, parce que c'était son nom qui a versé le premier sang en quelque sorte, même s'il n'y a pas eu de sang versé. Alors oui, il y a sans aucun doute, mais même encore aujourd'hui, si vous voulez, il y a, dans le mouvement de l'Action française, il y a une référence constante à Bainville, à Daudet, à Maurras, et Bainville est très important. Il était lié à Fayard par Candide, il était lié au journal Le Capital, qui était l'équivalent des Échos. Donc il avait une vie à côté de l'Action française, si vous voulez. Donc, mais sur le plan de la politique étrangère, c'est Maurras qui lui a donné l'opportunité, alors que ce n'était pas joué, de travailler sur la politique étrangère. La politique étrangère, quand la chronique lui est donnée en 1907, mais tout le monde s'en moque de la politique étrangère. C'est qu'en 1913-1914 que ça commence à bouger et qu'on le sent arriver un conflit, que les gens commencent à s'intéresser à la politique étrangère. Sinon, aujourd'hui, la guerre en Irak, il y a énormément de bouquins parce que finalement, les gens ont cette actualité, veulent avoir un éclairage. Eh bien là, c'est la même chose. Et Bainville apparaît comme cette plume qui offre cet éclairage. Voilà. Alors, dans la méthode, Maurrassien sans nul doute. Sur la question du régionalisme, tout à l'heure vous l'évoquiez, elle est très importante parce que Bainville, à la différence de l'Action française, n'est pas régionaliste. Bainville est plus du côté de Richelieu, de l'État-nation, que du côté de Maurras et d'un Frédéric Amoretti sur le régionalisme, sans nul doute. C'est-à-dire que lui, enfin, il n'y croit absolument pas. Voilà. Il n'y croit absolument pas. Il n'est pas attaché, je pense, à cette France des régions, à cette France. La question de la décentralisation à l'Action française, qui est très importante, qui est un des piliers de la pensée d'Action française, que va reprendre Pétain d'ailleurs, eh bien, ne l'intéresse pas.
Il écrit peu là-dessus.
Non, il écrit quasiment pas. Enfin, en tous les cas, de mémoire, je n'ai aucun article en mémoire. Et ça m'aurait frappé parce que c'est évidemment une question qu'on pose, à savoir est-ce qu'il... En fait, on essaie de voir les différences entre Bainville et Maurras. Et Bainville et Maurras, bon, ils n'étaient pas d'accord sur cette question. Voilà. Mais l'Action française est beaucoup plus... il y a une mosaïque beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Qui a été...
D'opinion, bien sûr. Ouais.
Il y a beaucoup de débats en son sein. Il y a des crises, comme dans tous les mouvements. Voilà. Et c'est d'ailleurs... j'ai retrouvé un rapport d'un membre des RG qui expliquait, si vous voulez, qu'il y avait une crise au sein de l'Action française et qu'on parle de Bainville autant. Voilà. Donc oui, ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et donc Bainville, finalement, avait plusieurs plumes, plusieurs journaux. Il était à la tête de la Revue Universelle. Bon.
Alors, il se retrouve quand même, alors, pour prendre un sujet sur lequel vous écrivez, c'est absolument passionnant la façon dont vous décrivez les réflexions de Bainville sur l'évolution de l'Allemagne vers la démocratie. En quoi est-ce que ça peut être positif ou négatif pour les relations internationales? Et là, je pense qu'ils se rejoignent avec Maurras. Il a quand même une vision extrêmement critique de la démocratie. Ça m'a frappé. Le rapport qu'il a au peuple n'est pas forcément un rapport d'affection. C'est aussi un rapport de crainte. Le sentiment que la masse peut finalement faire être gagnée par ses sentiments, disons, de patriotisme maladif et entraîner la guerre. Alors, est-ce que là-dessus, sur la démocratie, leur vision de la démocratie, est-ce qu'elle se rejoint?
Oui. William Keillor et Dominique de Scherf, que j'ai cité tout à l'heure, disent qu'il se tourne vers la fin de sa vie vers une monarchie constitutionnelle. Mais je ne pense pas que... Enfin, je ne vois pas quels sont les écrits qui permettent de le prouver. C'est-à-dire que Bainville est un sceptique, je le dis, un sceptique, mais il croit en la politique, vous le rappeliez tout à l'heure. Il croit au pouvoir politique. D'ailleurs, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bainville croit au retour de la monarchie pendant la Première Guerre parce qu'il pense que la République ne va pas survivre à la guerre. Et il se trompe. Il se trompe et finalement, après la guerre, il n'y croit plus. Mais il y a des hommes en place, il y a un régime. Eh bien, il faut faire en sorte que ce régime puisse aller dans le bon sens et l'aiguiller dans les conseils de politique étrangère. Et l'influence de Bainville est très forte. Georges-Henri Soutou a beaucoup travaillé sur cette politique étrangère de la France entre 1919 et 1923, sur la question de la Roure, de l'occupation de la Roure, sur la question du détachement de la Rhénanie. Eh bien, qui est une idée bainvillienne. Bainville souhaitait non pas un démembrement complet de l'Allemagne, mais en tous les cas sur certains espaces, qu'on puisse diviser cette Allemagne pour faire des états tampons qui nous protégeraient.
Oui, vous dites, d'ailleurs c'est très amusant de voir justement ces références à l'histoire, vous dites qu'ils aimeraient bien revenir
au traité de Westphalie.
Exactement.
Les traités de Westphalie, c'était une Allemagne de 350 entités politiques. Bainville n'est pas... il est réaliste. Et il sait bien qu'on ne peut pas revenir à ces entités. Mais si on peut détacher certains États, comme la Bavière, comme la Rhénanie, comme la Saxe, eh bien, faisons-le. Et en fait, Bainville, donc, au fond, refuse la démocratie centralisatrice allemande. Il refuse cette démocratie et il voit, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais je ne vais pas dire que Bainville est un disciple de Tocqueville, mais il y a une filiation entre l'analyse tocquevillienne de la démocratie et la tyrannie de la majorité et les considérations de Bainville sur l'Allemagne. Et il voit le mélange d'étonnant que va créer l'alliance entre la démocratie et le nationalisme allemand d'une Allemagne qui est mise à genoux. Voilà. Bainville était contre l'Allemagne, mais il est pour... Il est pour, si vous voulez, que à partir du moment où on met à genoux l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale et qu'on impute cette responsabilité morale à l'Allemagne, il pense que l'Allemagne ne va pas s'en remettre et qu'elle ne va réagir que par nationalisme. Et donc, il va y avoir ce mélange de national socialisme. Alors lui, il n'utilise pas le terme de national-socialisme, mais de socialisme national.
Oui, ça, vous insistez là-dessus.
Dans un article qui s'appelle « Demain », écrit en 1918, au mois de décembre, « Demain », point d'interrogation, et il dit que l'Allemagne va se réveiller dans un régime socialiste national.
Oui, c'est important à souligner, c'est-à-dire qu'il a bien compris la leçon de la Première Guerre mondiale pour les socialistes, c'est qu'ils ne peuvent pas faire l'impasse sur le patriotisme et le nationalisme. Et donc, quand il regarde les socialistes allemands, ça c'est extrêmement intéressant ce passage de votre livre, quand il regarde les socialistes allemands, ce qu'il regarde avant tout, ce n'est pas est-ce qu'ils vont avoir un programme de nationalisation, est-ce qu'ils vont se rapprocher des socialistes, non, c'est en quoi ils vont renforcer la nouvelle République de Weimar, en quoi ils risquent de faire un État viable avec une armée solide. C'est vraiment ça sa préoccupation. C'est pour ça qu'effectivement, il y a cette différence de domaine de réflexion qui fait, je pense, que Maurras réfléchit beaucoup sur l'interne, lui réfléchissant sur l'externe, a une vision un peu différente des concepts politiques. Parce que sa critique de la démocratie, fondamentalement, c'est qu'elle risque d'entraîner du nationalisme.
Sa critique de la démocratie est qu'elle risque ici pour l'Allemagne de créer la guerre, oui. Mais alors il y a des paradoxes que je souligne dans son œuvre et parfois même des contradictions. C'est-à-dire que au fond il est nationaliste pour la France, mais il n'est pas nationaliste pour l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il pourrait se dire, on pourrait se dire bon ben je vois pas pourquoi l'Allemagne ne serait pas nationaliste. Et il y a un admirateur indirect de Bainville, c'est Hitler, parce que Hitler va demander à un historien de travailler sur l'œuvre de Bainville pour justifier le nationalisme allemand et pour dire, au fond, ben, il existe le nationalisme français, il doit y avoir le nationalisme allemand. Mais Bainville ne voit pas simplement la France, il voit aussi l'équilibre en Europe, les équilibres, le respect des équilibres et la préservation de la paix.
Alors, continuons sur l'Allemagne, parce que c'est quand même le dossier tout à fait passionnant. Et arrivons-en, disons, à ces deux figures parallèles que sont Mussolini, d'abord, le fascisme, et puis Hitler avec le nazisme. Alors, vous montrez bien que Bainville a une compréhension assez particulière du fascisme. Il refuse le fascisme comme révolution.
Oui, et c'est une réaction. C'est une réaction. C'est pour cette raison que je le place dans les thèses développées aujourd'hui par Nolte. C'est-à-dire qu'il voit la révolution mussolinienne non pas comme une révolution, mais comme une réaction.
La phrase précise qu'il dit et que vous citez, c'est « le fascisme est une réaction, ce n'est pas autre chose ».
Exactement. Et en fait, je pense qu'il... Alors, je ne vais pas dire qu'il sous-estime, mais peut-être qu'il n'a pas assez vu l'aspect juste d'abord révolutionnaire et, par certains aspects, l'aspect totalitaire d'un Mussolini dans les années 30, de changement de société par l'intérieur, même si, bien évidemment, il y a un degré, vous serez d'accord avec moi, je ne vais pas vous l'apprendre, entre le national-socialisme et le fascisme italien dans cette question de totalitarisme.
Alors, moi, c'est ce qui m'a frappé en regardant, alors cette fois-ci en laissant l'Italie et en revenant à l'Allemagne de Hitler, ce qui m'a frappé, c'est que l'analyse qu'il en fait est avant tout géopolitique. On n'a pas l'impression l'expression, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots là-dessus, ou plutôt vous l'abordez, mais vous l'abordez autrement, cette question du racisme, qui est quand même une des critiques majeures qu'on fait à l'Action française. Vous l'abordez et vous essayez de montrer que pour Bainville, la question du racisme est complètement différente parce que, dites-vous, il se pose la question de la nation comme métissage. Et ça, j'aurais aimé que vous développiez ça, ou en tout cas que vous nous expliquiez en quoi, justement, il construit éventuellement cette notion-là à partir du travail de Gobineau, utilisé paradoxalement, j'ai l'impression. En quoi il construit cette notion-là pour essayer, au fond, de contrer un discours nazi qui lui repose entièrement sur la race, plus même que sur la nation, puisqu'au fond, la question du sang l'emporte sur la question de la culture.
Il y a en fait dans son introduction de l'histoire de France que je vais citer.
Est-ce que je n'en fais pas en quelque sorte, vous me direz, est-ce que je ne surdétermine pas quelque chose qui serait une forme d'antiracisme alors qu'en fait il est profondément raciste ?
Bainville ?
Oui, c'est une vraie question. C'est un des doutes que j'ai eu en lisant ce passage sur le métissage.
Alors justement, je pense que peut-être que je me suis mal exprimé, mais il n'y a pas, sur les quatre États par exemple, il n'y a pas de forme de racisme chez Bainville. La question sur le métissage, ce sont les premiers mots de l'histoire de France que je cite, où il explique que la France, oui, il y a une forme de métissage dans la France. C'est de mémoire, il dit, c'est un condensé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Voilà. Donc, il a conscience de ces mouvements de population et il n'y a pas du tout, c'est Maurras d'ailleurs, je l'explique, qui, alors que Bainville était aux premières années de sa formation, il commençait surtout en Allemagne à s'intéresser à des auteurs comme Vacher de la Pouge, comme Gobineau, eh bien c'est Maurras qui va le sortir de ça. Alors, sur la question de l'antisémitisme politique de Maurras, il y a aucun antisémitisme. Je n'ai pas trouvé une ligne de Bainville sur la question juive avec des propos racistes. C'est-à-dire que les quatre États de Maurras, au fond, il n'y a qu'un État que critique vertement Bainville, sans nul doute, c'est la question des protestants. La question des protestants...
Pas les étrangers.
Et j'allais dire jamais les étrangers. En lisant Bainville, je n'ai jamais trouvé une critique.
Non, mais c'est important. Au contraire, pour faire la différence
c'est très
entre
important.
Maurras
et même
Bainville.
Au contraire, je pense qu'il a un respect de la vie humaine à un moment lors des traités de 1918-1919 sur les mouvements de population qu'il y a eu au Moyen-Orient et en Asie mineure. Eh bien, il pense qu'on est revenu à l'âge des barbares. C'est-à-dire que lui, tout mouvement de population est une chose, mais barbare, voilà. Mmh. Et il pense que c'est un précurseur de l'armée de métier, parce qu'il pense que mettre des millions de personnes constitue, il disait toujours qu'un contemporain de Louis XIV qui arriverait en 1914 et qui verrait tous ces millions d'Européens sur des champs de bataille, eh bien il se dit, mais... C'est ça la démocratie, c'est de mettre sur les champs de bataille des gens de la sorte.
Oui, il est très critique sur le service militaire universel.
Voilà,
ça,
exactement.
C'est une notion qu'il critique violemment.
Exactement. Donc, en fait, il n'y a pas de rejet de l'étranger. En revanche, il y a un rejet du protestantisme qui est évident. Et ce rejet du protestantisme, alors, on peut dire qu'il est vraiment sur la même longueur d'onde que Maurras. À savoir que, notamment sur le Wilson, Maurras a écrit les trois aspects du président Wilson, où il critique, en fait, l'idéologie wilsonienne, rendre le monde safe for democracy, comme Wilson l'annonçait, sauver le monde par la démocratie. Bon, pour Bainville, ça vient du protestantisme, de l'individualisme protestant, et il le critique énormément. Il critique le moralisme protestant. C'est-à-dire que le traité de Versailles de 1919 est un traité avant tout moral. Et c'est en cela que, pour lui, c'est un traité dangereux. Et il établit une filiation entre le protestantisme, Kant et Wilson. Voilà. Et c'est là où les deux hommes se rejoignent le plus, si vous voulez, dans les années 1918, 1919, 1920. Voilà.
D'accord. Alors,
donc, des quatre États, parce que vraiment il faut préciser cette question, des quatre États, les juifs, les étrangers, les francs-maçons, ils n'en parlent jamais. Mmh. Jamais.
Mmh. Il en fréquente trop, peut-être.
Peut-être qu'il en fréquente trop.
Mais
des quatre États, c'est vraiment la question du protestantisme sur laquelle il rejoint Maurras.
Donc, on a quand même le petit coin quand même que vous établissez. Enfin, vous montrez quand même qu'il y a une différence entre Maurras et Bainville. On ne peut pas se contenter de dire qu'il y a une simple, j'allais dire, identification idéologique. C'est une question qui est vraiment à débattre. Alors, j'irai deux questions pour finir. La première, vous le considérez comme une sorte de prophète des relations internationales, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises dans le livre, vous faites un travail qui est amusant, vous essayez de calculer s'il s'est trompé. C'est-à-dire, vous regardez en 1912, est-ce qu'il se trompe sur la guerre balkanique, en 1914. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, le passage sur 1914, puisqu'il ne veut pas la guerre. Au début, après l'assassinat de l'archiduc, il espère qu'il n'y aura pas la guerre parce qu'il voit une catastrophe pour la France. Donc après, vous faites différentes évaluations, vous faites notamment des évaluations sur les années 30. Donc alors, vraie question, bon prophète finalement, bon calculateur ou mauvais prophète ?
Il est difficile de lui enlever cette part de prophétisme, parce que quand vous lisez les conséquences politiques de la paix et quand vous voyez qu'il décrit d'abord l'Anschluss, deuxièmement...
L'Anschluss en 1918, dites-vous.
Voilà, exactement. Qu'il décrit l'Anschluss, qu'il décrit ensuite l'invasion de la Tchécoslovaquie, qu'il décrit ensuite le pacte germano-soviétique, l'invasion de la Pologne et une nouvelle guerre européenne, il est vraiment difficile de lui donner.
Oui, mais il pense que soutenir la Pologne, faire une Pologne forte, il pense que c'est un bon calcul diplomatique pour la France.
Oui, c'est un bon calcul diplomatique pour la France, pour justement contrer cette masse allemande. Voilà.
Mais est-ce que là-dessus, il a eu raison ? Parce qu'au fond, la Pologne s'effondre.
Ça a été la politique étrangère de la France.
Mais est-ce que c'était justement... n'a pas été malhabile ?
Eh bien...
Parce que la bonne politique, pour être raisonnable, la bonne politique, c'était l'Union soviétique, pour être sérieux. C'était le pas terrible à franchir pour les nationalistes anticommunistes comme lui.
Oui.
C'est de faire une alliance cynique avec un adversaire idéologique, mais dont on savait que géopolitiquement, là, il y avait matière à résistance. C'était l'alliance de la Première Guerre mondiale, au fond.
C'était l'alliance de la Première Guerre mondiale, mais lui, il n'y croyait pas. Et il a bien eu raison, finalement, de ne pas y croire, parce que...
Pour la première, mais...
Pour le pacte germano-soviétique. À cause du pacte germano-soviétique. Mais il ne faut pas isoler la Pologne. C'est-à-dire que Bainville n'est pas idéaliste. Il développe l'idée, en fait, d'une union des nations de l'Est pour faire contrepoids. Et il ne néglige absolument pas la question italienne, puisque c'est le fameux fonds de Stresa.
Il est totalement favorable
voilà.
à ce front.
Il est pour un lien entre l'Angleterre, la France et l'Italie contre l'Allemagne.
Là encore, est-ce que ce n'est pas une erreur, ça ? Parce que fondamentalement, ce qui monte en puissance, c'est quand même ce qui va devenir de ce nom magnifique de pacte d'acier, hein, voulu par les Italiens pour faire quelque chose comme ça, qui est un nom très prestigieux. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ces axes idéologiques qui sont en train de se mettre en place ? Est-ce qu'il a bien perçu que désormais, dans les relations internationales, il y avait une nouvelle variable qui n'était plus seulement celle de la politique nationale, mais qui était celle de ces masses, au sens masse de pays, hein, idéologiques, c'est-à-dire une logique véritablement frontale de front fasciste, oui. de front communiste et peut-être
Alors,
de front démocratique.
La force des idéologies, c'est précisément, si vous voulez, peut-être ce qu'il a sous-estimé, et notamment dans l'Italie de Mussolini, qu'il considérait comme une réaction. Ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors, un dernier mot, peut-être une dernière réflexion pour conclure. Pourquoi lire Bainville aujourd'hui ? Est-ce que ça peut éclairer, donner des idées, être utile, j'allais dire, pour comprendre notre contexte géopolitique ? Ou alors, est-ce que c'est une question complètement déplacée et qu'il ne faudrait lire Bainville, au fond, que pour penser un moment très particulier de notre histoire ?
Je n'ai pas la prétention de connaître suffisamment, si vous voulez, les relations internationales aujourd'hui pour vous répondre complètement à cette question. Je pense que Bainville est de nouveau à la mode. Pourquoi ? Tout simplement parce que de 1945 jusqu'à 1989, vous avez une division bipartite des relations internationales. Si bien que Bainville a été mis de côté. Et il est redécouvert depuis 1989 parce qu'on a à nouveau plusieurs pôles. Donc, on lit les conséquences politiques de la paix, j'allais dire, en prenant en compte les constantes géopolitiques, en prenant en compte les lois de la politique étrangère. Donc, Bainville, c'est avant tout des lois de la politique étrangère, étudier les constantes de notre histoire, étudier le tempérament des peuples, la psychologie des peuples. Voilà. À la différence près qu'aujourd'hui, il y a cette nouvelle idéologie qui est mise à l'honneur depuis 1945, en tous les cas dans le camp occidental, c'est la question des droits de l'homme et l'impératif de la démocratie comme régime politique. Voilà.
Christophe Dicques, je vous remercie beaucoup d'avoir
c'est
passé avec
remercie,
nous cette
Fabrice.
Heure. Je rappelle votre livre, Jacques Bainville, Les lois de la politique étrangère. C'est publié chez Bernard Giovannangeli, éditeur. Et je vous remercie encore une fois. À bientôt sur Canal Académie.
À très bientôt.